Maintenant la parole. Merci encore. Je voudrais commencer par dire que je suis vraiment très heureuse d'avoir cette discussion à ce moment précis, alors que nous allons entamer les années, la décennie des années 20. C'est l'occasion de parler également de la décennie pour les personnes d'ascendance africaine à mi-parcours. Et le groupe de travail sur ce sujet apprécie énormément les interventions que nous avons entendues ce matin de la part des États membres et des organisations de la société civile. Au début de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, les concepts retenus n'étaient pas les mêmes en ce qui concerne la présence de personnes d'ascendance africaine. Il y avait le travail de pionnier fait par Michel Alexander, The New Jim Crow, qui a encouragé les décideurs politiques et les législateurs à reconnaître l'impératif racial de la guerre contre la drogue et le fait que ces politiques pouvaient être plus efficaces en tant que mécanisme de contrôle de la discrimination raciale qu'en tant que mécanisme visant à enrayer ou endiguer le trafic de drogue. Le cadre de la DDP est extrêmement complexe. Un lien est établi entre une discrimination raciale persistante, à des problèmes liés au patrimoine, aux mentalités, à l'exploitation remontant à l'époque de l'esclavage et du colonialisme. Tout cela apparaît encore dans nos sociétés aujourd'hui et cela nous a encouragés à aller de l'avant. Les trois piliers de la décennie internationale, reconnaissance, justice et développement, correspondent à des thèmes persistants d'injustice raciale, mais également reflètent également l'optimisme de nos avis éclairés, des progrès réels qui ont été faits dans la lutte contre la discrimination raciale. Ce que nous l'on retient beaucoup moins, c'est l'essor des incidents de crimes de haine et des rhétoriques politiques incendiaires contre les peuples d'ascendance africaine. Au cours de la décennie et de la décennie internationale, nous avons assisté à un véritable changement. Dans beaucoup de pays, nous avons vu que les discours politiques ont été instrumentalisés contre les personnes d'ascendance africaine en tant que moyen d'acquérir ou de consolider le pouvoir. Il est encore plus troublant de voir que cela a réussi. Il y a eu un essor des discours haineux et des crimes de haine. Dans certains des pays les plus développés, il y a eu des tentatives troublantes de justifier une tolérance de la discrimination raciale ou la haine raciale, y compris au point d'intersection avec le genre et l'identité de genre, l'handicap, les croyances, l'orientation sexuelle, dans le cadre de nos engagements en faveur de la liberté d'expression, la liberté de religion. Nous avons assisté à des actes de violence très graves, y compris des actes de violence contre des femmes d'ascendance africaine ou des femmes trans d'ascendance africaine. Ceci devrait bousculer la légitimité même de notre cadre des droits de l'homme et son efficacité. On peut se demander si ces personnes bénéficient vraiment d'un accès à la justice et d'une réelle reconnaissance. Nous avons également vu augmenter les actes de violence contre les défenseurs des droits de l'homme qui placent l'injustice sous le feu des projecteurs et demandent mieux, y compris les personnes d'ascendance africaine. Au cours de la décennie, nous avons également assisté à la recrudescence de nouvelles formes de discrimination raciale. Avec le développement du big data, nous avons vu de la discrimination raciale dans des produits d'intelligence artificielle, mais qui impose une charge excessive sur certaines personnes en fonction de leur race. Les logiciels de reconnaissance faciale, par exemple, diffusés dans le commerce et utilisés par le gouvernement à l'échelle mondiale, ont des taux d'erreur de jusqu'à 33% pour les visages de couleur sombre, tels que les personnes d'ascendance africaine, mais 1% d'erreur pour les visages de personnes blanches. Si ces statistiques étaient inversées, on s'interrogerait sur la légitimité du produit. Les algorithmes de santé, comme un algorithme récent aux États-Unis, ne propose pas les mêmes soins pour les personnes d'ascendance africaine ayant pourtant les mêmes symptômes et les mêmes maladies. Nous croyons comprendre que ces disparités sont liées au peu d'attention accordée au caractère persistant de la discrimination raciale, ce qui peut donner un biais algorithmique, peut-être parce qu'on ne dispose pas d'ensemble de données suffisamment ventilées, qui soient un vrai reflet de la diversité. Mais ce biais algorithmique est particulièrement problématique pour les organismes de droits de l'homme, y compris les systèmes juridiques. Il est difficile d'y remédier, de les contrecarrer. Lors de nos visites dans les pays, dans nos communications, le groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine a eu l'occasion de s'entretenir avec des personnes d'ascendance africaine dans le monde entier. Et nous restons très frappés par la similitude de leurs histoires et de leurs préoccupations d'un pays à l'autre. Nous voyons qu'il y a moins d'accès aux opportunités, à l'éducation, y compris un conditionnement en fonction du stéréotype, au poste de pouvoir, même pour des gens qui ont un niveau d'éducation très élevé. Et nous voyons comment les décisions concernant le logement et l'emploi, par exemple, tendent à perpétuer les inégalités raciales. Et le fait qu'il n'y ait pas de données suffisamment ventilées minimise souvent ou occulte des violations des droits de l'homme fondées sur la race. Pour résumer, nous voyons qu'il faut se focaliser davantage sur les personnes d'ascendance africaine. Et nous avons besoin d'un engagement beaucoup plus poussé et d'horizons élargis pour garantir cette promesse d'égalité raciale et de justice raciale. La DDPA reconnaît que le legs du trafic de l'esclavage d'Africains à la période du colonialisme ont laisser des traces très profondes dans les mentalités mondiales qui créent, qui perpétuent un racisme structurel. C'est un problème qui empire au lieu de s'améliorer, nous savons.